Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir, je dirais même de retrouver, Philippe Diribarne pour sa nouvelle parution, L'envers du moderne, qui est paru au CNRS Édition. Philippe Diribarne, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre antenne. Lorsque nous avions reçu la dernière fois, c'était au moment de la parution de votre ouvrage « Les immigrés de la République ». Et je dois dire qu'il y a eu un succès d'écoute et d'antenne assez remarquable. Alors, je rappelle que vous êtes un auteur confirmé, que « La logique de l'honneur » paru en 89 et « L'étrangeté française » en 2005 en sont la parfaite illustration. C'est donc avec un grand intérêt non dissimulé que nous avons pris connaissance de votre ouvrage et que vous avez choisi cette fois-ci de présenter au niveau de la forme sous forme d'entretien avec le journaliste Julien Charnay. Alors évidemment, cette forme de conversation vous donne l'occasion de balayer un petit peu l'ensemble de votre œuvre. C'était, j'imagine, l'objectif.
Oui, enfin, c'est un projet, disons, des éditions du CNRS, qui ont une collection dans laquelle ils ont une série d'entretiens avec divers personnes du monde de la recherche. Et donc, effectivement, qui conduit à voir l'ensemble, disons, d'un travail et comment une série de domaines qui peuvent paraître différents, voire disparates au fil, disons, des publications. En fait, elle est l'unité d'un travail, l'unité d'un travail intellectuel. Et c'était, au fond, l'objectif, c'est le fondamental de ce livre.
D'accord. Présenter une forme de synthèse. Alors, très rapidement, je rappelle, parce qu'on vous connaît, vous êtes un ingénieur, un polytechnicien et membre du corps des mines. Et progressivement, vous vous êtes centré, on va dire, un peu plus sur la sociologie. Et dans votre nouvelle parution, vous inscrivez dans le droit fil de l'évolution de vos recherches et notamment de vos travaux sur l'influence des cultures sur la vie des hommes et particulièrement dans le travail, les organisations. Alors, vous vous interrogez, je vous cite, sur le point de savoir si le projet moderne de refondation de la société, sous-tendant les diverses formes de progrès, peut rester le repère de l'humanité, alors que sa face sombre s'illustre dans une démesure dont les Grecs avaient considéré qu'elle pouvait attirer les foudres des dieux. Alors, je termine en vous citant, avant de vous passer la parole, vous dites la chose suivante, « Le moderne est un mythe, porteur d'une promesse et un récit. » Mais vous rajoutez un peu plus loin que ce mythe est peut-être une illusion et que le récit, légende. Alors, ma première question, c'est quoi ? Quels sont les commentaires que vous apportez à travers ces premières remarques ?
Effectivement, si vous voulez, le projet, enfin, c'est déjà un projet des Lumières, un projet de la Révolution française, puis de la série, disons, de révolutions qui ont succédé, font, a été de reconstruire radicalement une société nouvelle qui serait complètement débarrassée de, disons, des traditions, de l'ancrage, disons, dans un passé, des préjugés du passé. Au fond, c'était une grande opposition, une société construite sur la raison, un certain nombre d'individus construits sur la raison, et le rejet radical de tout ancrage dans les préjugés du passé. Et en même temps, donc, l'accès à l'universel, puisque autant les préjugés sont singuliers, autant la raison elle-même a quelque chose d'universel. Et on a réellement, je crois, au XVIIIe, et encore, disons, par la suite, pour un certain nombre, cru qu'on allait procéder à une sorte de reformatage radical de l'humanité, créer un homme nouveau, et un homme nouveau qui, à travers, disons, le contrat qui passerait avec ses congénères, construirait une société qui serait libérée des peurs, des conflits, de tous les particularismes, disons, du passé. Alors, ce dont on s'aperçoit, si vous voulez, disons, progressivement, et je crois que maintenant, doucement, cela rentre dans les conscients, que même si, et c'est en cela, c'est simplement la promesse n'est pas illusoire, mais le récit légende, tu sais, même dans les endroits qui ont été les plus atteints par ce mouvement de modernisation, qu'il s'agisse d'une part de ce qui tourne autour de l'idée de liberté, d'égalité, donc vraiment les grandes idées des Lumières d'un côté, ou qu'il s'agisse de l'autre du monde économique qui est marqué là aussi, disons, par la mondialisation, etc., que même dans ces domaines-là, on va rencontrer le fait que l'ancrage dans une vision qu'on pourrait appeler traditionnelle se maintient, que si on prend Kant et Locke, Kant est bien allemand dans sa conception, de sa philosophie, sa vision de liberté, et Locke est bien anglais, et que si l'on prend les entreprises contemporaines, une entreprise américaine est bien américaine, s'inscrit bien dans tout un imaginaire américain qui est héritier, disons, d'un lointain passé, et que de même, une entreprise française, une entreprise allemande vont hériter, et que, disons, tout cet aspect traditionnel n'est pas seulement une sorte d'extérieur par rapport auquel la modernité lutterait, mais vient comme une sorte de corps, disons, réputé étranger, s'inscrire à l'intérieur même de ce qui est censé le nier. C'est-à-dire que, par exemple, quand les Français se déclarent universels, se déclarent au-dessus de toute culture, au-dessus de toute contingence, ils sont subtilement extrêmement français dans cette manière de le faire et extrêmement héritiers, disons, imaginaire français de la grandeur.
Alors, justement, nous allons poursuivre sur ce terrain. Donc, on est dans ce que vous soutenez, la théorie des cultures, pour peut-être se rapprocher à la fois de l'actualité et aussi de la France, l'étrangeté française. Alors, je vous cite encore, le projet moderne dans sa radicalité est une façon de répondre à l'obsession française de la grandeur, non pas un oubli de celle-ci. Et vous rajoutez, donc ça va nous permettre de faire une réponse plus globale, en page 82, ce qui est partagé dans la société française. C'est le refus de plier par peur ou intérêt et la volonté d'échapper à la trivialité du quotidien. Je vous laisse maintenant commenter ces phrases qui, effectivement, sont très fortes.
Si vous voulez, ce refus de plier, c'est quelque chose qui est très fort, disons, dans l'héritage français, hein, qu'on trouvait dans la France d'Ancien Régime, toute l'idée de l'honneur et qu'on ne s'abaissait pas, on ne pliait pas, et que, si vous voulez, ceux qui pliaient, on a parlé de la domestication de la cour. C'est, au fond, cette image du domestique, Dieu sait que les gens de la cour avaient, à certains égards, une haute position dans la société, ou quand Montesquieu parle aussi des courtisans, enfin, vraiment comme d'une espèce tout à fait infâme, parce qu'elle a accepté, pour obtenir des avantages, de s'abaisser devant le roi. Alors, ceci s'est profondément transformé à certains égards. Et effectivement, la société de cour, enfin, a disparu encore que.
Vous citez un certain nombre d'exemples. assez croustillants.
Elle existe toujours. Mais, disons, sous des formes, disons, très différentes, on observe, disons, toujours cela et avec corrélativement un attachement à la grandeur. Alors, avec ce qui fait un des problèmes, c'est de la société française. Souvent, dans la tradition française, il y a deux grandes conceptions de la grandeur. Bon, il y a une conception, disons, qu'on pourrait appeler aristocratique, qui est très attentive à la distinction des rangs, alors qu'on va retrouver dans le système des grandes écoles, le système des grands corps, toute la hiérarchie des disciplines dans le monde intellectuel. Hein. Est-ce que l'étude du sanskrit ou l'égyptologie va l'être d'une autre nature que, disons, des disciplines moins nobles? Et puis, l'autre image, disons, de la grandeur, qui est au contraire une grandeur qu'on pourrait appeler cléricale. En ce sens, elle est héritière de cette vision dans laquelle on a dépassé, au fond, tout l'ancrage dans la terre et le sang pour s'élever dans le monde de l'esprit et donc dans le monde de l'universel. Et au fond, dans cette fascination très française pour l'universel, enfin, on va pas retrouver ça au Japon, en Allemagne, en Angleterre, etc. C'est vraiment très, très français.
Au-dessus.
Voilà, on est au-dessus. Au-dessus de toutes ces minables, disons, contingences du monde, et en particulier dans l'organisation de la société. C'est justement, on va pas s'attacher aux difficultés d'intendance, disons, liées à un grand projet, et on va maintenir un grand projet.
Oui, alors, justement, ça va me permettre une transition, après avoir rappelé une autre de vos phrases, vers le monde du travail. Bien entendu, ce type de culture influence, mais cet autre aspect, certainement aussi, vous précisez que la France reste une société très stratifiée, de caste et de hiérarchie des rangs, mais qui reste obstinément attachée à une passion pour l'égalité. Donc on voit bien cette espèce de tiraillement de la société qui pèse sur aussi le monde de l'entreprise. Alors, est-ce que pour vous, c'est ce qui explique cette permanence encore aujourd'hui de cette idée de lutte des classes qui garde la France dans le passé?
Tout à fait. Alors, je crois que le monde du travail a réalisé une sorte de compromis qui est à la fois remarquable et fragile. C'est remarquable en ce sens que à travers l'attachement au métier, la référence au métier, le fait qu'on a de devoirs vis-à-vis de son métier, etc. Disons,
la conscience professionnelle.
De compromis, ouais. Conscience professionnelle, mais conscience professionnelle qui n'est pas liée. Parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels il y a la conscience professionnelle, mais qui prend d'autres formes. En France, la conscience professionnelle, c'est je fais bien mon métier, je réponds aux obligations, disons, de mon métier. Alors, il y a à la fois, s'inscrit dans une vision hiérarchique, parce que tous les métiers ne sont pas égaux, et en même temps s'inscrit dans une vision égalitaire, parce que si chacun est respecté pleinement dans son métier, fût-il un métier relativement modeste, autant que celui qui a un grand métier est respecté dans son métier, au fond, on a à certains égards une égalité de respect qui, au fond, est héritière d'une certaine égalité symbolique de l'ancien régime. Alors là où cela est fragile, c'est que, et en particulier actuellement, c'est que dans la mesure où les devoirs et les privilèges, peut-on dire, disons, du métier, sont remis en cause dans une mondialisation dans laquelle, on l'a vu par exemple sur la France Télécom, enfin dans laquelle, finalement, on dit « Non, vous n'êtes plus dans votre métier, on va vous balader, vous êtes technicien, vous allez devenir commercial, etc. » Alors, on va retrouver et se reproduit l'espèce, disons, d'arrogance, peut-on dire, disons, des grands, enfin, qui n'ont pas un vrai respect tel qu'il est attendu dans la société française. Alors là, qui va réalimenter l'idée que, puisqu'ils sont comme ça, on va pas se laisser faire et on va rentrer dans les luttes et on va obtenir par les luttes ce que les grands ne sont pas prêts à nous reconnaître.
Oui, c'est ce que vous dites, hein, quelque part dans le triangle du contremaître, je crois que c'est votre expression, qu'un homme libre en France ne peut pas s'incliner sans égratigner son honneur. Quoi. C'est ça, il y a un peu ça aussi qui...
Voilà, c'est-à-dire que si on est vraiment dans la fidélité à son métier, dans le respect de son métier, on ne s'incline pas.
C'est ça.
On ne s'incline devant personne. On fait.
On exerce ça.
Là, on exerce. Et c'est vrai aussi bien, si vous voulez, pour le magistrat du Conseil d'État que pour l'ouvrier professionnel ou le conducteur du métro, hein, qui peut être vu des hautes sphères de la société paraît avoir un métier, disons, modeste, mais qui, vu dans sa perspective à lui, si vous voulez, a vraiment quelque chose
qui
tient de la valeur, auquel il tient et auquel il est prêt à être fidèle.
Alors, vous dites justement que la relation s'écarte dans l'entreprise, en France, d'un fonctionnement théorique de l'autorité, on va dire, normale. Et vous précisez que l'entreprise est en principe partout ouverte sur le monde, mais que ce principe d'universalité, en fait, doit être corrigé par ce que l'on vient d'aborder, c'est-à-dire sur les cultures. Donc, en réalité, ce principe d'universalité du management, qui devrait être celui de toute entreprise dans tout pays, est très corrélé par les particularités des cultures.
Oui, c'est-à-dire que si on prend des valeurs très abstraites et très générales, comme par exemple le respect des personnes, bon, je veux dire, vous ne trouverez pas une culture dans laquelle il y a
quelqu'un qui
demande du respect des personnes, hein, comme l'existence d'un devoir professionnel qui contribue à la bonne marge de l'entreprise. Là aussi, partout, vous allez trouver ça. Mais par contre, si vous vous demandez concrètement qu'est-ce que ça veut dire respecter un Chinois, qu'est-ce que ça veut dire respecter un Mexicain? Qu'est-ce que ça veut dire respecter un Jordanien, un Brésilien, un Français, un Allemand, un Anglais, un Suédois, etc. C'est différent. Voilà. Et donc, au fond, une question qui se pose justement aux entreprises multinationales et en particulier à celles qui ont des valeurs humanistes, il y en a heureusement un certain nombre, et en particulier dans les entreprises françaises, c'est de comment faire pour que ces valeurs auxquelles elles sont attachées vont pouvoir prendre corps d'une manière qui ait du sens dans chacun des univers, si vous voulez, dans lesquels elles opèrent.
Alors donc, globalement, vous portez un regard inquiet un petit peu sur cette modernité, mais tout en conservant une forme d'optimisme. Alors, est-ce que cette forme d'optimisme que vous avez, en faisant confiance en quelque sorte aux hommes, a finalement avancé sur ce chemin, est-ce que vous en avez le même optimisme pour la société française qui est aujourd'hui tiraillé et qui est aux confins, je dirais, de plusieurs chemins, c'est-à-dire celui de l'oubli de sa grandeur et de la rentrée dans le monde de la compétitivité, de la concurrence. Est-ce qu'elle est armée pour ça?
Je dirais, c'est une question d'horizon temporel. Il y a les questions à très court terme.
Mais oui, et avant,
effectivement, la société française est effectivement assez déstabilisée par la mondialisation. Donc, on voit bien cette insertion dans un monde compliqué, que ce soit le monde européen. Je repense de voir au fond comment la croyance dans l'Europe a tendance quand même à s'effriter, que ce soit, disons, la grande sphère mondiale, etc., crée une certaine déstabilisation en France, mais pas seulement en France.
Mais tout à fait.
Pas seulement en France. Alors c'est clair, c'est que, et ça participe, c'est la question de la modernité, qu'on a cru qu'on allait instaurer de par le monde un grand marché libéral, autorégulé, et qu'au moyennant ça, grâce à, au développement de la concurrence, etc., nous allions aller vers un monde de prospérité, de paix, etc. Bon, alors maintenant, si vous voulez, après, bon, la crise, depuis la crise financière, la crise économique, etc., on ne croit plus trop à tout ça. La société française, c'est-à-dire comme les autres, hein, parce que les États-Unis aussi,
oui, hein, c'est dur,
crise
c'est dur,
économique, c'est morale, interrogation sur eux-mêmes, etc. Les Chinois, c'est-à-dire, sont en crise aussi. Bon, donc, c'est comment on va sortir et comment on va se rendre compte qu'effectivement, on s'est fait un certain nombre d'illusions dans le fonctionnement de l'économie, dans l'idée qu'on allait reformater la société, etc. Et comment on va en sortir? Alors là où je suis, c'est-à-dire optimiste et confiant, hein, c'est pas la première fois que l'humanité et que les Français en particulier se trouvent devant de grandes questions, se sont embarqués dans des choses qui font problème. C'est la fin de l'ancien régime. Hein. La France était quand même embarquée dans des choses qui sont pas tellement géniales. Et puis, ça a pris du temps. Ça a pris du temps.
On change pas de culture, bien sûr.
Non, mais même pas. On n'a pas changé. Mais disons que adapter, trouver un compromis entre le fond culturel qui ne change pas
et la réalité.
Et puis la réalité d'un monde qui évolue, je dirais que en France, finalement, entre 1789 et puis le moment où la République se stabilise, hein, on a eu quand même pas très loin d'un siècle. Bon, je pense qu'on est parti quand même pour quelque chose qui concerne la France, l'Europe, le monde, la régulation, dans pas mal d'années, voire de décennies, de tâtonnement et de reconstruction, disons, de quelque chose. Mais je suis convaincu qu'on y arrivera.
Bon,
et
pour c'est votre orientation.
Pour ma déce part, j'essaie de contribuer justement à ça en essayant de clarifier au fond quelles sont les impasses et dans quelle direction on est susceptible de sortir de ces impasses.
C'est d'ailleurs votre orientation générale parce que vous dites à quelque part que vous préférez concentrer sur ce qui est positif dans les cultures plutôt ce qui fait leur spécificité ou leur fragilité. Vous regardez plutôt quand même ce qui peut être une source de rebond, de construction et de points forts que de dire eh bien non, ça c'est un boulet qu'on traînera ad vitam aeternam.
Enfin, c'est tout à fait, tout à fait. Enfin, je crois que c'est vrai que ça me paraît très très important si vous voulez, pour les entreprises multinationales bien sûr, mais pas seulement, disons pour le monde en général. Disons, quand elles vont quelque part, de voir quelles sont les ressources et parfois inexploité d'une culture. C'est en Chine, par exemple. En Chine, il y a à la fois, à certains égards, dans les entreprises, disons, la plupart des entreprises chinoises, hein, du népotisme, de la corruption, etc. Mais il y a aussi une tradition d'un bon pouvoir honnête et dévoué au bien du peuple, et que, l'expérience le montre, hein, c'est possible de s'appuyer sur cette tradition pour obtenir des fonctionnements qui sont beaucoup plus satisfaisants que les fonctionnements les plus courants.
Voilà, alors vous restez donc optimiste. Je lis ce que vous précisez dans le passage de votre ouvrage. Vous espérez l'avènement d'une humanité nouvelle et les premiers signes tangibles de l'existence d'hommes, de pensées et d'institutions pleinement dégagées ou affranchies plus exactement des pesanteurs du passé. Donc, de toute façon, en ligne.
Oui, enfin, ça me paraît plutôt un peu de l'illusion. Le pleinement affranchi des pesanteurs du passé, c'est une illusion. Non, mais que par contre, disons, plus réaliste dans la manière de tenir compte, disons, de ce passé et sans oublier, au fond, l'aspect positif du projet moderne, je crois qu'effectivement, ça me paraît une orientation raisonnable.
Alors, je voudrais terminer cette, avant que peut-être vous rajoutiez un mot, cet entretien, après avoir lu un passage de votre livre qui donnera à nos auditeurs, me semble-t-il, une illustration de toute la richesse de vos réflexions. Je reprends, je crois que je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, ce qui est partagé dans la société française, c'est le refus de plier par peur ou par intérêt, la volonté d'échapper à la trivialité du quotidien, la fascination pour la grandeur. De nos jours, cette vision de la grandeur s'est laïcisée. Chez nos clercs, un certain mépris des grandeurs profanes, l'argent, le pouvoir, l'univers, people, s'accompagne d'une grande révérence pour une grandeur sacrée, grandeur de l'esprit, de l'art, ce qui élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle, grandeur de la raison, de l'universel, des connaissances auxquelles on accède à l'issue d'un long itinéraire initiatique. Et ceux qui ont accès à cet univers sont bien conscients de ce qui les sépare d'un monde plus commun. Toute une hiérarchie en découle. Alors c'est un tout petit extrait, mais je crois que c'est le ton général de votre livre. Juste peut-être un dernier mot avant de conclure. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la fin des mines et que vous êtes enrichi de l'expérience de Decazeville, quel regard portez-vous sur ce qui arrive à l'automobile française, italienne d'ailleurs, puisque Fiat semble aussi avoir des difficultés par rapport à sa croissance externe? C'est le renouveau, quoi.
Enfin, ça fait partie, voilà. Au fond, s'est construite une industrie automobile française disons, dans un certain contexte, à la fois le succès de l'industrie taylorienne, bon, puis une certaine transformation avec les exemples japonais, etc. C'est un contexte international. Et puis, le fait d'avoir un contexte international différent oblige, disons, à revoir les choses. Alors, évidemment, la limite, on peut se poser la question, disons, d'une part, quel est le degré d'adaptation nécessaire de l'industrie automobile au nouveau contexte, et d'autre part, en quoi les difficultés de l'industrie automobile sont révélatrices d'erreurs qui ont été faites dans la régulation macroéconomique. Et dans le fait, par exemple, dans le type de concurrence, dans la régulation de la concurrence, et dans l'idée que on allait sacrifier, en quelque sorte, le producteur au consommateur, bien que ce soit la même personne. C'est qu'au fond, toutes les institutions européennes se sont construites autour de l'idée de « on s'occupe du consommateur » en oubliant un peu que le consommateur est en même temps producteur. Je crois que cette difficulté incite à reprendre cette idée de régulation en tenant compte parfaitement de ce que le consommateur est aussi producteur et que s'il perd plus en tant que producteur que s'il a gagné en tant que consommateur, finalement, au total, il y a perdu.
Tout à fait. Voilà, donc ça sera le dernier mot. Je rappelle le titre de votre livre, « L'envers du moderne », en une conversation avec Julien Charnet aux éditions CNRS. Merci, c'était un très grand plaisir.
Merci à vous,
Philippe.